Bienvenue dans notre émission spéciale Quartier Libre, où je reçois avec grand plaisir Isabelle Bourboulon, journaliste qui est ici ce soir en avant-première, on va dire, puisque vous avez bien voulu nous rendre visite en studio, alors que vous allez rencontrer le public dinois ce soir au Centre culturel René Char pour présenter la sortie du livre dont vous êtes co-auteur, Le Livre Noir des Banques. Bonjour Isabelle Bourboulon, bienvenue. Et ce n'est pas votre premier livre.
Oui, c'est mon troisième livre. Celui-ci est en coproduction, puisqu'on l'a écrit à plusieurs, mais j'ai déjà écrit un premier livre avec un économiste sur les relations entre l'économie et l'écologie. Donc c'était essentiellement un livre sur l'écologie qui s'appelle « Virus vert ». Et puis en 2011, j'ai publié un ouvrage sur les méthodes de management moderne. Vous savez, c'était au moment où sont sortis dans le débat public tout un tas de problèmes liés au stress, au harcèlement dans l'univers du travail, avec des suicides, notamment chez France Télécom. Mmh. On en a beaucoup parlé. Donc c'est un livre qui portait sur ce sujet, de la crise du travail en général. Et puis alors celui-ci, qui s'appelle Le Livre Noir des Banques, qui est publié chez Les Liens qui Libèrent, c'est-à-dire c'est le groupe Actes Sud, et qui est un livre co-rédigé, co-réalisé par deux associations. L'une, c'est ATTAC, une association qui s'est créée en 1998 avec, au départ, la volonté de populariser la fameuse taxe Tobin. On en a beaucoup parlé à l'époque. Mm-hmm. Cette taxe Tobin qui visait à taxer la spéculation financière, hein, pour le dire vite, c'est-à-dire essayer, par ce moyen, de réguler les marchés financiers, puisque on considère, et beaucoup de monde est d'accord là-dessus, que le système financier international est extrêmement dangereux dans la mesure où il peut provoquer du jour au lendemain des crises très graves comme celles qu'on a vécues en 2008. Voilà, donc ça, l'association est née là-dessus, sur cette idée, et puis maintenant elle s'est beaucoup développée. Et donc, indépendamment des sujets qui ont trait à la finance, ATTAC travaille et milite beaucoup sur le réchauffement climatique, tous les sujets liés à l'écologie. Mais enfin, son cœur de métier reste encore la question financière. Donc c'est pour ça que le livre noir des banques, c'était un projet qu'on avait depuis pas mal de temps et qui s'est enfin réalisé cette année. On s'est associé avec Basta, qui est un site internet d'information, qui est donc tenu par des journalistes. Et donc on s'est associé entre économistes et journalistes pour faire ce livre, ce qui a été une expérience, je dois dire, très, très intéressante, parce que entre journalistes et économistes, ce sont des univers très différents. Et on a eu vraiment besoin de beaucoup échanger. On s'est partagé les chapitres. Moi, personnellement, j'en ai écrit à peu près un quart de ce livre. Et donc, ça a été une collaboration très fructueuse pour réaliser cet ouvrage qui est très sourcé. Ça, c'est une des caractéristiques.
Donc, une enquête longue.
Une enquête longue et sourcée avec beaucoup de sources parce qu'il ne fallait pas prêter le flanc à la critique, notamment quand on s'en prend aux banques. Il faut quand même prendre certaines précautions. Et l'éditeur, d'ailleurs, nous avait demandé de le faire. Hein. Donc, voilà, il y a beaucoup de notes de bas de page pour donner les sources à chaque fois qu'on affirme quelque chose. Et voilà, donc c'est un livre à charge, hein, contre les banques, responsables de la crise économique et responsables, au-delà des problèmes financiers, responsables de la crise qui affecte tout le monde, finalement.
C'est les banques qui sont responsables de cette crise.
Absolument, absolument. C'est vraiment le fil rouge de cette enquête, c'est de montrer combien les banques, le système bancaire international et le système bancaire français en particulier est vraiment responsable de la crise économique qui s'est déclenchée en 2008 avec une crise financière sur les subprimes aux États-Unis, vous vous en souvenez, et qui aujourd'hui s'est étendue à toutes les sphères de la vie quotidienne avec augmentation du chômage, avec tout un tas de difficultés pour la vie des gens qui est liée finalement au fait que cette finance qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas régulée, finalement, a envahi nos sociétés et la vie des gens pour faire de l'argent, c'est-à-dire l'argent qui fait de l'argent et qui n'investit même plus dans l'économie réelle.
Alors ce livre, c'est un peu une dénonciation. Est-ce qu'il y a des solutions?
Oui, il y a aussi, à la fin du livre, on propose quelques pistes de solutions pour pouvoir réguler le système. Mais les pistes sont connues. Malheureusement, le problème, c'est que c'est que le lobby bancaire freine des quatre fers dès qu'il est question d'une réforme. On a eu en 2013, il n'y a pas si longtemps, une réforme qui a été impulsée sous le gouvernement de... qui a été commencée sous le gouvernement Sarkozy, puis poursuivie sous le gouvernement Hollande, et qui visait à, soi-disant, à séparer les activités de banque de détail, c'est-à-dire la banque de crédit, la banque de tous les jours, la banque de vous et moi, de la banque de spéculation, de la banque d'investissement. Or, la réforme, finalement, au fur et à mesure, s'est réduite comme une peau de chagrin, et finalement, elle a affecté très, très, très peu l'activité des banques. En tout cas, elle n'a pas séparé véritablement ces deux activités qui, ce serait pourtant la réforme fondamentale à faire si on veut véritablement commencer à réguler un peu et à limiter la spéculation. Au point que, d'ailleurs, même le président de la Société Générale, Frédéric Oudéa, a reconnu que la séparation des activités bancaires n'avait affecté que 1% de l'activité de sa banque, de la Société Générale. Donc c'est très peu.
Alors quel est le risque que vous encourez avec ce livre ? Est-ce que les banques vont vous tomber dessus ?
Non, elles ne sont pas tombées dessus.
Puisque il est sorti en février.
Il est sorti le 11 février. Il marche très bien. La première édition de 10 000 exemplaires s'est vendue en une dizaine de jours.
Ah oui.
On en est déjà à la deuxième édition. Donc il a rencontré son public. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement un intérêt des gens pour comprendre un peu le système bancaire. Et on n'a pas du tout subi une attaque des banques qui nous auraient attaqués pour diffamation ou autre. Non, absolument pas. Donc ça veut dire qu'on a pris nos précautions et que justement tout ce que nous disons dans ce livre est vérifiable, y compris dans des articles de presse ou dans, ne serait-ce que dans les rapports d'activité des banques. On trouve beaucoup, beaucoup d'informations. Il n'y a pas véritablement de révélation. Simplement, on a mis en lumière un certain nombre de choses qui sont... souvent très opaque, notamment tout ce qui concerne l'évasion fiscale.
C'est un livre qui est destiné à un public, n'importe quel citoyen lambda peut le comprendre, sans être économiste.
Bien sûr, c'est une écriture journalistique de facile à lire, donc non, aucun problème, on peut y accéder. On n'est pas obligé de tout lire, hein, parce que c'est quand même un pavé de plus de 300 pages. Et on peut lire certains chapitres, ceux qui intéressent un peu les lecteurs, plus que d'autres, mais il est très très facile d'accès.
Ce livre dresse un panorama complet des effets néfastes de la finance toute puissante. Oui. Il y a un sommaire, on peut aller chercher le paragraphe. Est-ce qu'on peut avoir des extraits
on peut trouver beaucoup de choses, hein. Il y a une vingtaine de chapitres. Moi j'ai travaillé particulièrement sur tout ce qui concerne la criminalité financière et les moyens de la justice pour répondre aux abus, fraudes et arnaques diverses des banques. Et puis j'ai travaillé également sur la banque de détail, c'est-à-dire la banque quotidienne, hein, la banque de tout le monde. J'ai travaillé sur l'évasion fiscale. Il y a un certain nombre de chapitres que j'ai supervisés, que j'ai rédigés. Je ne sais pas si... En lire des extraits, c'est difficile, mais peut-être donner quelques éléments un peu factuels sur l'évasion fiscale, qui va être le sujet de notre rencontre de ce soir, puisqu'on va projeter également un film autour de cette question.
Celui de 20h30,
voilà,
c'est ça.
Qui s'appelle Le prix à payer de Harold Crookes.
Vous l'avez vu, bien sûr.
Je l'ai déjà vu, oui, bien sûr. Et il y a donc... beaucoup de comités d'attaque ou simplement de comités de citoyens qui diffusent ce film et qui nous invitent, nous les co-auteurs du livre, à participer au débat qui suit la projection du film, parce qu'il est tout à fait dans la même optique de ce que nous avons rédigé, écrit dans ce livre. Alors, sur l'évasion fiscale, quelques petites informations. Vous devez savoir, vous vous souvenez que la banque HSBC a été inquiétée, poursuivie pour avoir facilité l'évasion fiscale de contribuables, notamment français, d'environ 3 000 contribuables français. Et aujourd'hui, c'est évidemment une fraude qui est totalement avérée. Mais à l'époque, au tout début, quand un lanceur d'alerte du nom de Hervé Falciani, qui est un ancien salarié de cette banque à Genève, a révélé cette affaire, on ne l'a pas pris au sérieux. Non seulement ça, mais il a dû s'expatrier jusqu'en Espagne parce que personne n'en voulait. Il était poursuivi par le gouvernement suisse. Donc la banque n'était pas inquiétée, mais le lanceur d'alerte qui avait révélé le scandale, lui, était poursuivi. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé et il est protégé. Et par contre, la banque, maintenant, est mise en cause. Mais il y a énormément de... Ne serait-ce que le Crédit Mutuel, qui est pourtant pas une très grande banque, est également actuellement victime d'une plainte parce qu'il a, il a facilité l'évasion fiscale d'un certain nombre de ses clients. Et là aussi, et là encore, ce sont des salariés de la banque qui ont révélé le scandale et qui ont été licenciés.
Ah oui. Voilà,
oui. Alors c'est ça le problème, c'est que les lanceurs d'alerte, malheureusement, souvent sont plus embêtés, plus poursuivis que les banques elles-mêmes. Même scandale avec BNP Paribas à Monaco, qui a facilité l'évasion fiscale de tas de ressortissants, notamment entre l'Afrique, pays africains et Monaco. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de ce type. Ce qui est finalement est à la base de l'évasion fiscale, c'est que la fiscalité n'est pas la même dans tous les pays. Et donc, évidemment, des contribuables ou des entreprises ou des grosses entreprises, comme on en a beaucoup parlé à propos d'Amazon ou d'autres, ou Google, jouent sur la différence de fiscalité entre les pays pour déclarer leurs activités là où la fiscalité est la plus avantageuse. Et ça leur permet, alors c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, ce mot qui est très politiquement correct, en réalité c'est véritablement de l'évasion fiscale, c'est-à-dire la manière d'échapper à l'impôt. Et on considère qu'en France, le montant de l'évasion fiscale est de 70 milliards d'euros, donc c'est une somme colossale. Tout ça évidemment représentant un manque à gagner pour le trésor public, pour le fisc, alors évidemment de temps en temps, heureusement, on arrive à savoir qu'il y a eu des entreprises ou des particuliers riches qui font d'évasion fiscale et dont on arrive à savoir sur quelle somme à peu près ils ont pu tricher. Et on vient de parler encore récemment de le couple Balkany. Mais véritablement, en fait, le problème, c'est que toutes ces affaires n'arrivent pas véritablement sur les bureaux des juges parce qu'il y a des tas de filtres auparavant, et notamment le fameux verrou de Bercy, ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est-à-dire que les riches particuliers qui ont fraudé préfèrent négocier avec le ministère d'économie ou du budget pour rembourser une partie de leur évasion fiscale pour essayer d'éteindre l'incendie. Et donc, c'est très rare qu'il y ait des plaintes qui arrivent en justice, parce que tout se négocie au préalable au ministère. Voilà, il y a des tas d'exemples, hein, je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, on parle beaucoup des paradis fiscaux qui abritent justement les sommes qui échappent de cette manière, par la fraude fiscale, et on considère qu'au niveau mondial, les paradis fiscaux abriteraient entre 17 000 et 26 500 milliards d'euros. Ce sont des sommes absolument colossales, c'est des budgets d'État entiers. Hein, ça équivaut, par exemple, cette somme équivaut au poids cumulé des économies des États-Unis et du Japon. Un tiers du PIB mondial, c'est colossal, c'est colossal. Et tout cet argent se trouve dans les paradis fiscaux. En France, ce sont 220 milliards d'euros qui sont cachés dans les paradis fiscaux par des Français fortunés.
Combien ?
220 milliards d'euros. Et 370 milliards par les grandes entreprises nationales. Donc au total, près de 600 milliards. Voilà. Tout ça, et alors, évidemment, on parle périodiquement, on en reparle, il faudrait interdire les paradis fiscaux, est-ce qu'il y en a toujours autant ? Mais malheureusement, il y en a toujours autant. Il y a, en tout cas, l'OCDE dénombre 20 États qui sont des paradis fiscaux dans le monde, il y en a vraisemblablement beaucoup plus, et la France n'en reconnaît que 8. Bon, c'est comme ça. En réalité, les pays qui sont les plus destinataires des sommes qui échappent de cette manière par l'évasion fiscale, en Europe, c'est la Suisse toujours et le Luxembourg. On peut aussi dire que pour comprendre comment tout cela fonctionne, les banques, j'en reviens aux banques, les banques ont elles-mêmes des succursales dans les paradis fiscaux. Par exemple, BNP Paribas, qui est la plus grosse banque française, possède 170 filiales dans des paradis fiscaux. Donc on comprend comment tout ce système fonctionne finalement. La Société Générale en a 139, le Crédit Agricole en a 133, etc., etc. Donc toutes les grandes banques ont des filiales dans les paradis fiscaux et donc facilitent l'évasion fiscale de leurs clients, mais également elles travaillent pour leur propre compte.
Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Alors,
on
y
peut pas arrêter, fermer ses banques. Comment ça peut se passer?
Il y aurait beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, ça commence, heureusement, il commence à y avoir des mesures.
Est-ce qu'ils doivent payer une amende pour...
Ça commence aux États-Unis, notamment, qui sont un peu le plus avancés dans ce domaine. Maintenant, les États-Unis, les autorités publiques infligent des amendes colossales aux banques qui trichent, y compris l'an dernier, on a eu un grand scandale avec la BNP Paribas, qui avait réalisé des opérations en dollars à partir de ses implantations aux États-Unis, avec des pays sous embargo américain, comme le Soudan, Cuba et d'autres. Et donc, y a eu toute une période où on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que BNP Paribas va être interdit de l'activité aux États-Unis? Ce qui, pour la banque, serait une catastrophe. Et BNP a préféré négocier, comme toujours, et a donc payé une amende absolument colossale de 6,6 milliards d'euros. C'est quand même très, très important. Parce que les banques, finalement, préfèrent payer des amendes plutôt que de se voir interdire leur activité dans des pays, forcément, ou retirer leur licence. Donc voilà. Mais c'est un système qui est maintenant tellement bien intégré que les banques provisionnent dans leur trésorerie, provisionnent des montants qui leur servent à payer des amendes au cas où elles sont poursuivies. Donc c'est vraiment... Tout ça est organisé. Voilà. Donc elles préfèrent payer plutôt que d'être sanctionnées, y compris sur le plan judiciaire.
Ce livre, donc, se vend comme des petits pains. Ouais,
faut pas exagérer. C'est quand même pas un livre... C'est pas un roman policier, mais bon.
Est-ce que ça va changer quelque chose pour le citoyen?
Alors, nous, évidemment, on espère beaucoup que ça va changer quelque chose.
Quelle est la solution pour...
Il y a beaucoup de choses possibles, il y a beaucoup de choses à faire. Je disais que la première des choses, c'est de séparer les activités des banques entre les banques de crédit et de dépôt et les banques d'investissement, qui sont les banques de privées ou qui sont les banques qui spéculent. Ça, c'est la première chose à faire, parce que sinon, le système est extrêmement dangereux. Il suffit qu'une banque ait des problèmes. C'est ce qui s'est passé en 2008 avec... des premières banques qui ont fait faillite, pour entraîner une catastrophe en série, puisque les banques sont tellement... Le système bancaire est tellement interdépendant, les banques sont tellement interdépendantes entre elles, qu'il suffit qu'il y en ait une qui fasse faillite pour que tout le système puisse s'écrouler. Donc c'est extrêmement dangereux. Et les États, en principe, donc, sont tenus de garantir les dépôts individuels des clients, ce qui fait que s'il y a une faillite, les États doivent... à nouveau capitaliser, c'est ce qui s'est passé en 2008. Les États doivent abonder pour redresser, empêcher que le système s'écroule. Et la Banque Centrale Européenne, notamment, c'est son rôle. Donc tout ça, c'est un système qui se tient. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi, lorsqu'une banque a des problèmes, on a vu ça avec Dexia, tout de suite, les gouvernements montent au secours et interviennent pour sauver les banques. Mais c'est un système qui est extrêmement pernicieux, parce que finalement, tout le monde se tient. Et en plus de ça, nous, on s'est aperçu dans notre enquête, mais on s'en doutait, que le petit monde des dirigeants bancaires et des représentants de la haute administration, des inspecteurs des finances, des énarques, des grands corps de l'État, sont tous des gens qui circulent d'un univers à l'autre avec une facilité incroyable. On a des exemples très concrets avec des gens comme François Pérol, Xavier Muscat et d'autres qui ont été à la fois dans des cabinets ministériels, puis patrons de banque, et puis qui reviennent à nouveau vers l'administration, etc. Tout ce monde circule, c'est un petit monde, tout le monde se connaît, et ça fait que finalement, tout le monde se tient un peu par la barbichette, quoi. C'est extrêmement pernicieux et dangereux, parce que ça explique pourquoi les gouvernements n'osent pas et ne vont pas véritablement vers des réformes qui stabiliseraient le système et qui empêcheraient qu'il y ait vraiment des problèmes sérieux. Donc voilà, c'est malheureusement, le système s'auto-alimente de cette manière, et c'est très très difficile de le réguler. Il faudrait des volontés politiques. Alors, il y en a qui ont essayé, même quelqu'un comme Michel Barnier, commissaire européen, qui est pourtant de droite, c'est pas un gauchiste, a essayé de prendre des mesures pour réguler le système bancaire européen, et il n'a pas pu y arriver, parce qu'il y a le lobby est tellement puissant. Imaginez-vous qu'à Bruxelles, il y a 700 lobbyistes bancaires du système bancaire qui sont là en permanence, qui surveillent tous les projets de loi, qui interviennent à tout moment. Michel Barnier avait dit quand j'en ai eu tellement marre de recevoir les lobbyistes bancaires que j'avais fermé la porte de mon bureau, mais ils sont rentrés par la fenêtre. C'est une expression courante, mm-hmm. mais qui montre combien, à quel point combien les banques et leurs représentants interviennent chaque fois que leur activité pourrait être menacée ou en tout cas réglementée et réduite. Et puis voilà, donc c'est un vrai problème parce que c'est très difficile de réformer le système bancaire. Et bon, il y a d'autres mesures. Par exemple, on pourrait très bien sanctionner les banquiers. Ça s'est fait dans d'autres pays, en Islande, quand il y a eu un gros problème suite à la crise de 2008, avec une grosse faillite bancaire, et ben les responsables bancaires ont été sanctionnés, le Premier ministre a été démis de ses fonctions. Donc voilà, il y a eu quand même, il y a des sanctions qui sont prises. Même en Allemagne, on peut poursuivre des banquiers indélicats. En France, on ne peut pas. En France, on ne peut pas. C'est absolument incroyable. Donc il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et puis les moyens sont pas là. Alors ça, c'est moi, j'ai rencontré par exemple des douaniers qui s'occupent de la fraude fiscale et du système de la judiciaire sur la finance, et qui m'ont répondu que ils ont peu de moyens finalement, parce que les méthodes de fraude et d'évasion fiscale sont tellement sophistiquées. Tout ça se passe par l'informatique. C'est très très difficile de tracer, de trouver des traces de tous ces va-et-vient de finances. Et donc ils se sentent très démunis. Ils disent, nous, on n'a malheureusement pas les moyens de poursuivre. Les enquêtes sont longues, elles coûtent cher, et donc comme on nous demande du résultat, et ben malheureusement très souvent tout ça tombe un peu dans les oubliettes.
Ce livre, vous allez le présenter ce soir, oui, au Centre culturel. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter sur d'important concernant ce
Là, je répondrai plutôt aux questions, parce que j'imagine que après avoir vu le film, enfin, je vais présenter le bouquin évidemment avant la projection, mais après ce sera un dialogue avec les personnes qui sont dans la salle, qui auront envie de, parce que le film lui-même est fort, donc il appelle à réagir, et je pense qu'il y aura certainement des questions. Ce sera un dialogue intéressant. Ce qui moi me rassure d'une certaine manière, c'est que d'une part le sujet des banques maintenant est quand même, avec l'évasion fiscale, on en parle beaucoup, c'est vraiment rentré dans le débat public. Donc tout le monde maintenant est au courant qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas dans ce domaine et qu'il faut s'en inquiéter. Donc notre livre, il est concomitant à la sortie d'un certain nombre de films. Il y a ce film qu'on va voir ce soir, mais il y en a d'autres. Il y a le film qui est une fiction qui vient de sortir aussi, qui s'appelle L'Enquête. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est l'histoire de Denis Robert, qui est un journaliste qui a révélé un petit peu tous les problèmes avec la banque de compensation qui s'appelle Clearstream, l'affaire Clearstream.
D'accord.
Voilà, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. Et ce journaliste, donc, Denis Robert, a été poursuivi, il a eu des tas d'ennuis. Finalement, il a gagné ses procès et on s'est bien aperçu que tout ce qu'il avait révélé était parfaitement vrai. Et donc il y a un film qui a été réalisé, une fiction avec je ne sais plus quel acteur français assez connu, et qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui raconte cette histoire. Donc il y a beaucoup de choses quand même entre les livres, les films. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu le dernier magazine de Cash Investigation sur France 2 avec Élise Lucet, ou France 3, je ne sais plus. Était très bien sur justement toute la question de l'actionnariat des grandes entreprises, des dividendes, des sommes absolument faramineuses qui vont dans les bonus, les parachutes dorés et compagnie. Tous ces sujets-là, quand même, maintenant, les gens en ont au moins entendu parler. Et je trouve que le fait qu'on en parle beaucoup, ça commence quand même à faire qu'on peut s'en inquiéter, on peut éventuellement réfléchir à des solutions. Et puis l'autre élément qui me paraît positif, c'est que finalement, les États, dans la situation de crise où on est aujourd'hui, les États ont besoin d'argent. Donc ils ont besoin de récupérer toute cette manne qui leur échappe d'une certaine manière. Et on vient de voir que Barack Obama aux États-Unis a lancé toute une action pour obliger les grandes multinationales à déclarer leurs impôts aux États-Unis pour pouvoir récupérer un peu toute cet argent qui échappe finalement à l'économie des États-Unis, parce qu'ils vont déclarer leurs impôts en Irlande, dans les paradis fiscaux et ailleurs. Donc maintenant, il y a quand même une chasse à l'impôt qui est ouverte, et heureusement, il se trouve ça vraiment parfaitement normal, parce que nous, on a révélé par exemple que dans le livre, entre 2009 et 2012, les quatre principales grandes banques françaises n'avaient payé que 8% d'impôts. 8% d'impôt. Mmh. Alors que la moindre PME des Alpes-de-Haute-Provence doit s'acquitter de 33,5%. Donc c'est totalement injuste. Et en plus, ça porte sur des sommes beaucoup plus importantes. Donc il y a vraiment beaucoup à faire. Mmh.
Donc le film qu'on va voir ce soir, Le prix à payer de Harold Crooks, c'est comme ça qu'on dit, oui. Un film documentaire d'1h33 qui est quand même donc rythmé et qui maintient le spectateur en haleine.
Ça c'est un film qui est très bien fait,
parce qu'il faut, c'est nécessaire pour tenir le sur le sujet.
On s'ennuie pas du tout. Pourtant, c'est des sujets qui sont pas faciles, mais il est très bien fait parce qu'il est très didactique, il explique beaucoup les choses. Et je trouve qu'en sortant du film, en tout cas moi, je l'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'il tourne beaucoup en France en ce moment.
Il vient de sortir en 2015.
Il est sorti il y a pas très longtemps. Mm-hmm. Oui, bien sûr.
Et c'est un travail qui a été fait en parallèle avec votre livre. Non, ça n'a rien à voir.
Non, on n'a pas travaillé.
Le hasard qui a fait que c'est sorti en même temps.
Le hasard a fait que c'est sorti absolument au même moment que la publication de notre bouquin. Oui, c'est sûr. Donc voilà, il est très, très, très bien fait. Il explique beaucoup de choses et je trouve qu'à la sortie du film, on a vraiment compris comment les choses fonctionnent. Donc c'est très intéressant.
Eh bien, j'invite tous les auditeurs à venir le voir et je pense que je vais venir aussi puisque je serai disponible à cette heure-ci.
Moi aussi, en tout cas, je recommande vivement. Le film passera à 20h30 et donc le débat aura lieu après, vers 22h. Et moi-même, je présenterai le livre à 18h30 au Centre culturel René Char.
Donc c'est ce soir qu'on peut vous retrouver à 18h30, donc ce mardi 24 mars, au Centre culturel où vous allez parler de ce livre et répondre déjà aux questions alors.
Je vais faire un petit peu ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire parler du livre en général, parler de l'évasion fiscale en particulier, et puis ensuite on regardera le film et on reviendra derrière le film à des questions et à un débat avec le public.
Voilà, et puis il y a un repas tiré du sac possible entre tous à 19h30 et à 20h30, cette projection débat, Le prix à payer de Harold Crooks d'une durée d'1h33, mais qui nous maintiendra en haleine puisqu'il est bien rythmé, nous dit Libération. Isabelle Bourboulon, merci. Et puis,
merci à
tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver des informations?
Sur le livre, on trouvera plein de choses. Il suffit de le taper sur Google, par exemple, le nom du livre. On trouvera plein d'informations. Mais le mieux, c'est de lire le livre.
Voilà. Et il coûte combien?
Il coûte 21,50 €.
21,50 €.
On le trouve partout.
Et il a été... Donc, vous avez co-écrit un quart, c'est ça?
À peu près.
Et il a été réalisé avec le collectif Attaque et Basta.
Exactement.
Qui est
un site d'information alternatif.
Voilà, on le trouve partout. Le livre noir des banques. Isabelle Bourboulon, merci, à tout à l'heure. Sachez que cette émission sera en podcast sur notre site Fréquence Mistral. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.